Bonjour à tous et bonjour à mon invitée Martine Vallon pour cette émission mensuelle donc sur France Nature Environnement 04 et ses missions. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, le thème, ce ne sera pas l'eau, ce sera...
Alors aujourd'hui, je souhaitais vous parler de la forêt. Nous sommes en ce moment avec des actions dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et à l'heure actuelle aussi, le ministère de l'Environnement lance un peu une consultation sur le programme pluriannuel de l'énergie et la transition énergétique. Et donc, je pense que il est important d'aborder cette question-là. Et je voudrais l'aborder aujourd'hui sous l'angle de la forêt. Puisque nous sommes un département bien pourvu, je dirais, en termes de forêt, et que parmi les différentes possibilités qui sont envisagées dans le cadre de la transition énergétique, le bois est un des axes, et aussi ce qui est considéré comme ce qui est la biomasse, c'est-à-dire non seulement le bois-bûche pour la production de chaleur, mais aussi la biomasse pour la production d'énergie. Et donc... L'État envisage à l'heure actuelle la reconversion des anciennes centrales à charbon pour des systèmes de centrales biomasse du type E.ON, comme celle qui se met en place sur Gardanne. Et donc, voilà, donc, c'était un peu autour de ça que je voulais parler aujourd'hui. Tout d'abord, pour placer les choses sur l'aspect général de la forêt, bon, la forêt en PACA se porte plutôt bien, donc on est quand même, je dirais, relativement bien pourvu en termes de forêt. Il faut savoir que sur la France, globalement, il y a à peu près 30% du territoire qui est recouvert de forêt, et en PACA, nous en sommes à 50%. Sur le 04, c'est à peu près 50%, 49% et quelque chose. Et on a, par exemple, le département du Var qui est jusqu'à 58% de forêt. Donc, c'est vraiment des zones extrêmement boisées. On peut dire que chez nous, la forêt se porte plutôt bien.
Qu'est-ce qu'on trouve comme forêt dans le département ?
Alors, sur le département, c'est essentiellement... Enfin, on est à 2/3 de conifères et 1/3 de feuillus. Mmh. Ce qui est à peu près l'inverse de la forêt française, qui est beaucoup plus en feuillus dans les belles régions de forêt, en fait. C'est vrai que la forêt provençale n'a pas une image de belle grande forêt. Enfin, on a des zones qui sont intéressantes sur le département ou sur la région, hein, certains massifs, mais on n'a pas cette image des forêts du centre qui sont de très grandes futaies, etc. Bon, mais par contre, on a effectivement une ressource et un territoire forestier important. Alors, oui, 66% de résineux à peu près. Et un des éléments aussi qui est à relever, c'est que on est sur à peu près 80% du volume qui est peu accessible. C'est-à-dire qu'en termes d'exploitation, quand on envisage la possibilité d'exploiter la forêt, sur notre région, c'est pas si évident que ça. Et sur notre département, c'est pas évident du tout. On a beaucoup de forêts qui sont quasiment inaccessibles, qui sont alors donc avec pas de rentabilité du travail, etc.
Alors, accessible, pourquoi peu accessible ?
Accessible pour les machines, pour tous les engins qui sont nécessaires lorsqu'on veut travailler sur la forêt. Donc, ce qui fait qu'effectivement, en termes de sylviculture, on est sur très peu d'espace, donc de forêts qui sont exploitées. On est à peu près sur 3% de la surface. Hein. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Ce qui est important aussi, ce qui est caractéristique, c'est qu'on est sur une forêt qui est en grande partie privée. On est à peu près à 70% de propriétés privées. Et parmi ces propriétés privées, ce sont essentiellement des tout petits propriétaires. C'est-à-dire que En moyenne, c'est 2,5 hectares, 3 hectares par propriétaire. Et seuls 2% des propriétaires ont plus de 25 hectares de forêt. Donc ça veut dire aussi là que par rapport à une exploitation du bois, le problème se pose du fonctionnement, des possibilités de regroupement des propriétaires pour aménager des pistes et pour s'organiser de façon à ce que ce soit possible de l'exploiter. Alors quand je disais que la forêt se porte bien, c'est aussi parce que il y a globalement hein, sur la forêt française dans les 15 dernières années, enfin de 90 à 2000 par exemple, on a eu une augmentation de 6% des surfaces, c'est-à-dire que progressivement, des terres agricoles, la plupart du temps, sont abandonnées et on a la forêt qui reprend sa place, enfin, qui reprend la place de ces terres qui ne sont plus utilisées. Alors, c'est une bonne chose pour la forêt, effectivement. On peut dire aussi que par rapport à d'autres aspects, à d'autres services que peut apporter la forêt, donc j'aborderai tout à l'heure ce point-là sur les différentes qualités de la forêt ou les différentes utilisations ou tout ce qu'elle peut nous apporter en dehors, puisque en dehors de cet aspect uniquement production matérielle, de cet aspect de production d'une ressource qui est le bois ou la biomasse, puisque la forêt apporte beaucoup d'autres choses. Ce que je voulais dire aussi à ce sujet, parce que effectivement, la mise en place de ce projet à Gardanne a suscité bien des inquiétudes, et notamment sur notre département. Alors, on reste vigilant, c'est nécessaire. On est à l'heure actuelle en appui, en soutien ou en collaboration avec France Nature Environnement Bouches-du-Rhône sur des aspects juridiques pour contrer un certain nombre de développements du projet E.ON. Bon, le juridique, c'est un temps long, donc effectivement, là, il n'y a pas grand-chose à en dire aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que logiquement, l'exploitation d'une forêt, ça ne se fait pas de façon anarchique, ça ne se fait pas comme ça, n'importe comment. C'est-à-dire que la récolte du bois est réglementée et nous avons une quantité de textes. Alors, le code forestier, le code de l'environnement, le code rural, le code de l'urbanisme, qui encadre cet aspect-là. Et puis, on a tout ce qui est les chartes forestières, les certifications, le règlement d'exploitation, le règlement national d'exploitation. Enfin bon, on a vraiment des obligations aussi pour les propriétaires qui ont des grandes surfaces de mettre en place des plans de gestion. Donc, on peut dire que, sur le terme de la législation, on ne manque pas de textes, d'encadrement, de garde-fous. Bon, après, encore faut-il effectivement que la loi soit respectée et qu'on fasse attention et qu'on surveille ces aspects-là. Mais normalement, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les forêts, et notamment sur la région PACA, on a quand même une grande partie du territoire qui est sous l'emprise de certaines réglementations. On a tous les espaces des parcs naturels, nationaux, régionaux. On a des zones qui sont d'intérêt communautaire, etc. Donc ça veut dire aussi que là, il y a des moyens sur lesquels, des moyens à utiliser, des textes sur lesquels s'appuyer pour protéger la forêt lorsque on pense qu'elle peut encourir un danger. Alors, peut-être on pouvait faire les choses en deux ou trois partie, et donc faire peut-être une petite pause, et je reprendrai ensuite sur l'aspect autres apports pour nous, pour l'homme de la forêt.
Très bien, et bien à tout de suite. Donc on va écouter un peu de piano pour patienter. Vous êtes toujours dans l'émission mensuelle sur France Nature Environnement 04 avec Martine Vallon, présidente de cette association. Aujourd'hui, le thème est la forêt. Et on a pu voir dans cette première partie d'émission que la forêt se porte plutôt bien.
Oui, alors, donc j'abordais ce début d'émission avec l'aspect... sylviculture et l'aspect bois, ressources d'énergie ou de chaleur. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que la forêt, ça n'est pas seulement ça. Je veux dire, la forêt, ce n'est pas un champ d'arbres qu'il faut récolter ou qu'on peut récolter. Ça n'est pas uniquement ça. Ça peut l'être selon le regard qu'on a et selon qui on est et d'où on observe les choses. On peut aussi faire référence à ce livre de Jean Giono, L'homme qui plantait les arbres, pour évoquer aussi un aspect, je dirais, beaucoup plus global, beaucoup plus visionnaire de la forêt et une position de l'être humain qui est en accord et qui est avec le désir de modeler son paysage et d'apporter finalement aux autres quelque chose qui manque, ou d'apporter à la nature l'aide qui va lui permettre d'évoluer. Et à ce propos, lorsque dans les premières années où j'étais sur le département, donc vers les années 80, j'ai vu débarquer un jour chez moi un cycliste qui parcourait le pays à vélo et qui venait d'Australie. Et sa demande, son questionnement quand il est arrivé et sa recherche, c'était la forêt d'Elzéar Bouffier. C'est-à-dire qu'il avait lu le livre de Giono et il avait parcouru, pas tout ce trajet uniquement pour ça, mais il venait dans la région pour voir cette forêt. qui était mythique, en fait. Et ce qui montre bien comment un objet, un paysage, peut être porteur d'autre chose que le simple aspect matériel et porteur de rêves, notamment. Alors aujourd'hui, on peut dire que la forêt, ça n'est plus seulement, et ça ne doit plus être seulement la propriété ou la seule propriété d'exploitants forestiers qui en font une ressource ou un bien à vendre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et on commence à reconnaître à la forêt de nombreuses autres fonctions.
Notamment pour l'oxygène, déjà, on a besoin... Alors, on a besoin de forêt.
On a besoin de forêt, donc déjà, oui, effectivement, sur un plan de service santé, j'allais dire, et effectivement pour la production d'oxygène. Mais on a aussi l'aspect, sur ces questions de production et d'éco-services, j'allais dire, il y a tout l'aspect concernant l'eau, c'est-à-dire l'aide à la production d'eau, puisque les forêts aussi, par le fait que l'humus conserve
l'humidité,
permet effectivement une réserve d'eau importante, mais aussi l'aspect de filtration, c'est-à-dire que les forêts filtrent les eaux, améliorent la qualité, amènent une espèce d'épuration, et donc cet aspect-là est un aspect aussi très important. Et puis on a le côté qui est aujourd'hui très à la mode et très mis en avant, qui est le stockage du CO2, bien sûr. Donc là aussi, c'est un apport important pour l'être humain que fait la forêt. Après, et sur notre région, sur notre département, la forêt, c'est aussi un paysage. C'est aussi la forêt, c'est une forme de beauté, c'est une forme d'apport esthétique qui concourt à l'attrait d'une région. Donc, même si on n'a pas les grandes forêts du Nord, on a quand même des forêts qui sont spécifiques, qui sont attirantes. On a sur la région PACA, on a les forêts de chêne-liège, par exemple, qui sont une particularité. Sur notre département, il y a tout un aspect aussi d'apport qui donne aux touristes une impression de nature sauvage, de nature préservée, et cela devient de plus en plus recherché. Donc effectivement, aujourd'hui aussi, un des enjeux par rapport à l'utilisation du bois en termes de ressources, c'est aussi de conserver d'autres aspects. Pour notre département, il est important de ne pas raser toutes les forêts parce que l'image générale en souffrirait et effectivement, on ne va pas dans un paysage qui est dévasté. Donc aujourd'hui, il y a, je ne dirais pas concurrence, mais il y a un équilibre à trouver entre une exploitation de bois et un désir de développer le tourisme et de conserver une forme de tourisme.
Sans compter qu'on a besoin de l'ombre des arbres, vu la chaleur qu'on peut trouver.
Oui, c'est vrai que pour les promenades de l'été, à l'heure actuelle, et cette année, on l'a bien vu, le couvert végétal et l'ombre étaient bienvenus, c'est certain. Et donc, la forêt, c'est aussi effectivement cet espace qui est un espace de loisirs, cet espace qui nous accueille sur des moments de détente, sur des moments de promenade. Enfin, là aussi, il est important de reconnaître ce côté-là et de le prendre en compte. Et puis, la forêt, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine en termes de nature, en termes de biodiversité. On dit que la forêt diminue la biodiversité et qu'il est important d'éviter qu'elle s'étende trop. Les tenants de l'agriculture disent qu'il est nécessaire de supprimer les forêts ou d'éviter qu'elles prennent trop d'emplacement, trop d'espace. Alors, la forêt, c'est pas une diminution de la biodiversité. La forêt, c'est une autre biodiversité. Effectivement, il n'y a pas les mêmes espèces que sur des milieux ouverts. Mais par contre, il y a effectivement une vie très importante et des multitudes de variétés, de champignons, d'insectes, etc., qui vivent sur les vieux arbres, sur l'humus, sur le sol forestier. Enfin bon. Donc là aussi, c'est une forme de patrimoine qu'il est important de préserver. Et cela, bon. Comme tous les patrimoines, en fonction aussi de sa particularité ou de sa rareté. Plus un milieu ou plus une espèce végétale ou animale sont rares, et lorsqu'on a la chance d'en avoir chez soi, plus on a de responsabilités par rapport à l'existence de ce milieu ou de cette espèce. C'est là aussi où, dans certains cas, il faut savoir protéger quelque chose que peut-être on est les seuls à posséder, et donc pour le bien global de l'humanité, c'est important. Et donc ça aussi fait partie des aspects d'apport que peut avoir une forêt. Après, effectivement, donc il y a cet aspect qui a jusqu'à présent été plus ou moins l'aspect premier, qui est le côté production. Donc les forêts qui ont été plantées pour du bois d'œuvre, ou les forêts qui ont été plantées pour du bois de chauffage, etc., ou bien qui produisent donc une matière. Donc dans cette production de matière, bien sûr, sur les diverses possibilités, on a en effet donc le bois d'œuvre, on a tout ce qui est humus, biodiversité, etc., donc cet aspect-là, et puis le bois énergie. Donc quand je dis bois énergie, il y a l'aspect biomasse et puis il y a l'aspect du bois brut, les bûches qui sont brûlées dans les cheminées ou dans les poêles. Et là, il faut savoir que 46% du bois, c'est du bois de chauffage, c'est une utilisation en autoconsommation. Donc des bûches que nous brûlons dans nos cheminées. Donc en fait, cet aspect-là est méconnu parce qu'il ne rentre pas sur le domaine commercial. C'est pas du bois vendu, c'est de l'autoconsommation. Donc là, et là, on est pour nous vraiment dans un domaine où c'est très fréquent sur notre département. Alors, et puis c'est aussi un peu comment dire, pas une tradition, mais enfin une culture. On a par exemple toute la montagne de Lure et toute cette forêt qui se poursuit ensuite sur le secteur Malfougas, etc., qui sont des petits chênes, des coupes qui repoussent, des taillis, en fait, des bois qui ont entre 30 et 60 ans et qui sont coupés tous les 30, 50 ans. Autrefois, servait à faire du charbon. Effectivement, donc on avait les charbonniers qui travaillaient dans ces secteurs-là, servent toujours et servent à faire des bûches. Et puis aujourd'hui, effectivement, ils peuvent aller vers, probablement en partie, vers les centrales ou vers la centrale de biomasse. Et l'autre utilisation en production matière sur le département, c'était bien sûr la pâte à papier. Ça reste encore une des voies d'utilisation du bois. Et qui d'ailleurs aujourd'hui rentre un peu en concurrence avec la centrale de biomasse. Alors, en dernière partie, j'aborderai, peut-être on peut faire encore une petite pause et voir s'il y a des évolutions. Et je voulais aborder aussi donc cet aspect de je dirais pas quelle est la forêt idéale, mais quelle serait la forme la plus harmonieuse, en fait, d'utilisation de la forêt, et comment nous voyons les choses, notamment pour notre région ou pour notre département, en fonction de ce qui effectivement semble poindre un peu à l'horizon sur cet aspect transition énergétique, énergie nouvelle, et donc utilisons le bois et la biomasse et poser un peu ce problème-là.
Martine Vallon, on en parle donc dans quelques minutes. On fait encore une pause musicale.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume, en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi, dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y peux des prunes. Il y a 107 ans qui dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner. Mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû me quitter des yeux.
Et on retrouve Martine Vallon pour cette émission sur France Nature Environnement et notamment donc la forêt. On a vu donc déjà deux parties et là la troisième partie donc c'est quelle serait la forme la plus harmonieuse d'utilisation de la forêt, Martine.
Oui, alors pour nous, il est important de, j'allais dire, de définir peut-être des critères d'intérêt patrimonial qui régiraient l'exploitation et les usages en fonction des particularités d'une forêt ou d'un peuplement. Ne pas considérer toute chose égale, mais selon les secteurs, il peut y avoir des différences à prendre en compte. Alors, c'est vrai aussi qu'il faut un peu se méfier des discours. Donc, l'idée du bois comme une ressource énergétique et donc un secteur économique important avec une filière à créer ou à renforcer qui permettrait de multiplier les emplois. Bon, c'est pas forcément la réalité. Une exploitation rentable du bois nécessite des machines, de très grosses machines parfois, et pas forcément donc des emplois multipliés. Là où peut-être il y avait 10 bûcherons plus des débardeurs avec des chevaux, etc. Aujourd'hui, une machine avec un gars qui conduit, elle coupe, elle ébranche, elle écorce et elle emporte. Et donc, ça ne fait pas tellement d'emplois que ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est par exemple que... pour faire un emploi, il faut 2000 mètres cubes de bois de chauffage régulièrement exploité et commercialisé. Et par contre, il suffit de 300 mètres cubes de bois d'œuvre. Donc on voit qu'en termes d'emploi, le bois d'œuvre est déjà nettement plus intéressant que le bois de chauffage.
Qu'on appelle le bois d'œuvre ?
Le bois d'œuvre, c'est le bois qui va servir à faire des poutres, à faire de la menuiserie, à faire des planches, d'accord, etc. Hein, donc c'est le bois qui va être... Enfin, le bois plus noble, dirons-nous, ou bien la partie plus intéressante de l'arbre. Donc là, on est déjà avec un rapport qui est extrêmement différent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait du bois d'œuvre, c'est-à-dire quand on scie un arbre pour en faire des planches, il y a tout ce qui reste, l'écorce, la sciure, les petits morceaux qui sont inutilisables, etc., les branches, et tout ça, ça peut devenir le bois énergie. C'est-à-dire tout ça, c'est récupérable et on peut l'utiliser. C'est-à-dire, donc du coup, au lieu de faire uniquement du bois de chauffage, on a un arbre qui va servir à faire des planches et avec les résidus, ça va faire encore, sur un mètre cube, on a encore, pas la moitié, mais 0,4 mètre cube qui est considéré comme du bois énergie. Donc en fait là, on a une utilisation maximale de ce qui est produit. Donc voilà, là c'est sur le plan de l'aspect économique et de la rentabilité et de la possibilité de créer des emplois, l'utilisation d'un bois dans un sens d'un travail menuisier, etc. est quand même nettement plus intéressante. Alors c'est pas possible partout, mais c'est important. Et donc, pour nous, le bois énergie, c'est le dernier niveau de l'utilisation du bois et de la forêt. Ça devrait être le dernier niveau. C'est-à-dire que, en fait, la demande qu'on pourrait faire, aujourd'hui, il est question d'harmoniser ou d'articuler les différentes utilisations de la forêt. Pour nous, c'est pas suffisant d'articuler. Ce qui est important, c'est de hiérarchiser les différents services que nous rend la forêt, et donc à partir de là, effectivement, de ne pas considérer uniquement une possibilité, mais d'exploiter en fonction de ces différents apports.
Et alors, si on hiérarchise, ça met donc le bois d'œuvre en
premier. Ah ben, ça mettrait le bois d'œuvre, bien évidemment, avant le bois énergie, le bois de chauffage. Et puis après, selon les secteurs, cela peut être le réservoir de biodiversité qui est le plus important, donc un secteur de forêt qu'on ne va pas toucher du tout, parce qu'il peut y avoir des espèces particulières, extrêmement rares, etc. Après, sur un autre secteur, ça peut être un aspect patrimonial du paysage, le désir de développer du tourisme dans ce secteur-là, et donc la gestion de la forêt va être adaptée à ce besoin-là. On évitera de faire des coupes rases, on pourra faire une gestion un peu plus douce, etc. Enfin, donc en fait, les différents critères qu'on va poser selon les endroits va permettre justement de hiérarchiser ces possibilités et bien de gérer la forêt de façon plus harmonieuse et plus souhaitable. Aujourd'hui, et puis sur le plan de la transition énergétique, l'idée, c'est aussi l'idée de la proximité. Avoir une transition énergétique de territoire, c'est-à-dire utiliser par exemple en Bourgogne, il y a des accords, des projets qui sont des réseaux de chaleur, donc qui rassemblent des collectivités et des particuliers pour l'utilisation de proximité du bois, donc dans des chaudières. Et donc, avec cela, on peut chauffer non seulement les bâtiments communaux ou bien quelques bâtiments administratifs, comme on peut le faire, mais tout un quartier qui est en réseau. Donc là aussi, il y a des possibilités différentes. Donc voilà, bon, c'était un peu abordé les différents aspects de cette question de la forêt. Et donc là-dessus, dans la mesure où il y a une enquête qui est en cours, donc une forme d'enquête publique sur le site du ministère de l'Environnement, moi j'invite les auditeurs effectivement à aller voir éventuellement et à poser leur réflexion ou leur proposition, ou à se mettre en contact avec nous de façon peut-être à réfléchir sur cette transition énergétique et cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui est prévue, et d'essayer de faire remonter des idées simples mais qui pourraient être utiles. Alors on est presque à la fin. Donc je voulais quand même aussi rappeler un petit peu nos
missions,
nos dates, oui. nos événements sur le mois
de à venir,
sur le mois
d'octobre
qui vient, voilà.
D'accord.
De façon effectivement, le thème donc de cette émission sur la transition énergétique et la forêt, le pourquoi de cette émission, c'est effectivement les événements en cours. Nous avons en ce moment donc sur Manosque une exposition qui est sur le thème de l'énergie et de la transition énergétique. Qui est une exposition de portraits d'habitants de Manosque, Oraison, enfin les secteurs sud là, qui disent ce qu'ils estiment faire à titre individuel pour la transition énergétique, mais pour la planète, pour l'environnement, etc. Donc ce sont des simples paroles et des positions je dirais, chacun peut faire un petit peu. Donc voilà.
Donc c'est une exposition
qui circule. Alors c'est une exposition
itinérante.
Qui est sous une forme, voilà, oui. Une forme un peu particulière. C'est une exposition itinérante qui circule donc sur certains commerces à Manosque. Il y en a donc dans le hall de l'hôtel de la mairie, de l'hôtel de ville, et puis des commerces en centre-ville Donc on peut voir ces différents portraits.
Donc ce sont des manosquins qui proposent...
Qui parlent de mm-hmm. ce qu'eux peuvent faire ou de ce qu'ils estiment être... leurs actions personnelles, leurs actions ponctuelles pour l'environnement. Alors, ensuite, nous poursuivons, nous avons mis en place des formations, nous faisons régulièrement des formations pour nos adhérents. Donc, on a eu une formation sur la forêt qui a été organisée dernièrement, et on va avoir bientôt deux journées, les 20 et 21 octobre. Ça se passera sur les mets et c'est sur l'aspect agroforesterie, c'est-à-dire tout ce lien dans la mouvance actuelle des formes de jardinage et de maraîchage qui émergent. Il y a une théorie sur le lien entre couvert forestier et plantation maraîchère. Et donc, c'est sur cet aspect-là. Donc, ça. Et puis...
Donc, une formation qui est réservée à qui?
Pardon.
Une formation
qui est réservée aux adhérents de France Nature Environnement et à nos associations membres. Et le 17 octobre à Manosque, le film avec Utopia, Qu'est-ce qu'on attend? Donc, ça, c'est... au centre culturel et la première aussi c'est la journée réunion publique ITER à Manosque. Là j'invite ceux qui nous écoutent peut-être à aller parler et aller poser leurs questions, donc c'est une réunion publique sur ITER et donc où participeront l'autorité de sûreté nucléaire et l'agence ITER France. Donc si vous avez des questions sur l'énergie nucléaire et des choses à dire là-dessus, ça peut être le moment. Donc c'est la salle Osco Manosco à Manosque.
Et quel jour et heure?
Jeudi 29 septembre, donc demain à 18h30.
Ah, c'est déjà...
C'est déjà là, oui, c'est pas...
29 septembre à...
18h30,
salle Osco Manosco. Ah oui, voilà. Alors ça c'est comme si on y était, voilà.
Voilà, donc voilà, sur les dates à venir et sur la question de l'énergie.
Donc ce sont, ça se fait essentiellement sur Manosque, donc l'exposition de portraits avec paroles des personnes qui parlent donc de ce qu'ils font pour l'environnement.
C'est en ce moment, oui.
Il y a une date...
encore toute la semaine prochaine.
Bien. Eh bien, on retrouvera ça sur notre site aussi,
voilà.
Ces
d'accord.
éléments. Merci Martine Vallon, et puis eh bien, à la prochaine fois, mois prochain, et vous retrouverez cette émission sur notre site fréquencemistral.com. Bonne journée à tous.
Il y a un arbre, je m'y colle dans la petite voie de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je je suis parti, vol au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Et un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole, et s'en va.